Notre premier plateau, ça va être l'histoire, les manipulations de l'histoire. Mark Twain disait « Le mensonge a déjà fait le tour du monde alors que la vérité commence à peine à enfiler ses chaussettes. » Et il faut toujours tirer le premier, c'est une loi de la communication. Vous tirez et les autres courent derrière. C'est ce qui se passe ici, c'est ce que le très habile Robert Ménard fait d'une manière absolument formidable. Alors on va parler de l'histoire et des manipulations de l'histoire avec Bruno Modica, qui est prof ici, qui est universitaire et qui anime une association qui s'appelle les Clionautes sur les détournements de l'histoire. On aura aussi Sébastien Ribert-Prêt, qui est prof aussi, et qui nous parlera de la fête des prénoms, la deuxième fête des prénoms, il nous dira pourquoi. Et puis j'aurai beaucoup, beaucoup de plaisir à vous faire découvrir, ou faire rencontrer Rémi Serre, que vous voyez là, qui est un vieil ami, et je vous dirai pourquoi dans un instant. On va commencer par Bruno Modica, si vous voulez bien, professeur agrégé d'histoire, etc. Ici, on n'y va pas de main morte, dans le détournement de l'histoire, que ce soit l'art de débaptiser les rues, comment Robert Ménard a débaptisé la rue du 19 mars avec la cérémonie tonitruante dont on se souvient, que ce soit le détournement de la figure de Jean Moulin, l'évocation constante de Charles Martel, etc. Il y a les interprétations de la guerre d'Algérie et de ses séquelles, même si évidemment ici c'est un lieu de mémoire particulièrement présent et douloureux pour ce qui concerne la guerre d'Algérie, puisqu'elle concerne aussi bien les pieds noirs, les harkis et toute cette mémoire-là, mais il y a des façons de les évoquer et de les exploiter. Alors, Bruno Modica, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous autres, contre ces manipulations et ces instrumentalisations, en quelques mots?
Merci, Daniel. Eh bien, c'est très simple. Le fil rouge de notre action, le fil rouge d'une association nationale d'historiens géographes, j'aime à dire d'ailleurs les praticiens de l'enseignement de l'histoire, les praticiens des usages publics de l'histoire, le fil rouge de notre action, que ce soit à Béziers ou ailleurs, c'est celui de la triple exigence, qui est celle effectivement de notre premier métier, qui est celui d'être des enseignants. C'est celui de la dimension scientifique de l'histoire qui est à prendre comme une science humaine. Et enfin, la troisième dimension, et c'est celle qui nous réunit visiblement très nombreux sur ce plateau aujourd'hui, qui est celle des usages publics et du discours public que l'on peut avoir sur l'histoire. Alors le fil rouge de l'action, qui est celle que je mène, donc à partir de Béziers, parce que le hasard a voulu que l'association des Clionautes soit présidée à partir de Béziers, alors ce que je voulais dire, c'est que oui, prof d'histoire à Béziers, c'est pas un cadeau. Et puisque c'est pas un cadeau, ce cadeau, on va le rendre à ce locataire temporaire de l'hôtel de ville. On va lui faire, effectivement, je ne suis pas d'accord avec l'idée que Robert Ménard fait du bruit, fait du buzz et qu'on ne peut rien faire contre lui. Je crois qu'on lui a montré, quand on est des profs gauchistes qui ont emmerdé les élèves pendant des années, on peut lui faire aussi très mal. Et c'est ce que nous avons fait. À partir d'une pétition de quelques, comme ils les appellent, des petits profs du lycée Jean Moulin, relayé effectivement par une association nationale qui, en matière de savoir-faire sur les réseaux numériques, a quand même une certaine expérience. Nous existons effectivement depuis 1998, on a été capable de lui répondre. Mais ensuite, parce que c'est ça qui est important, effectivement, il faut faire appel à l'intelligence des gens. Alors évidemment, c'est moins facile que de faire appel à l'émotion, c'est moins facile que de faire appel aux bas instincts, mais nous le faisons quand même. Moi, j'ai été très étonné quand, dans un partenariat avec la médiathèque André Malraux de Béziers, on a voulu organiser, on a appelé ça les cafés géopolitiques des Clionautes. Je m'attendais à ce que ce soit l'équivalent des cafés philo, des cafés éco, etc. Et puis, effectivement, parce que nous avions des thématiques qui étaient géopolitiques, qui étaient géohistoriques, qui étaient historiques, finalement, eh bien, on se retrouve avec tous les mercredis, ça le comble. Et moi, ce qui me ravit, ce qui m'enchante, j'en ai vraiment de l'émotion chaque fois qu'on le fait, c'est quand je vois des gens qui viennent, nous en faisons entre 8 et 10 dans l'année, on appelle ça une saison, en tradition tauromachique, on appelle ça une temporada, eh bien, nous en faisons 8 ou 9 dans une saison, il y a effectivement le public qui vient fidèle et qui nous dit « mais nous avons besoin de ça, nous avons besoin d'histoire, pourquoi vous ne le faites pas tous les mercredis après-midi ?» Bon, d'accord, là franchement on n'y arriverait pas. Eh bien ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement ce besoin d'histoire, c'est à nous intellectuels, c'est à nous historiens, c'est à nous praticiens de l'histoire de nous en emparer. Parce qu'attention, ce que j'expliquais à mon collègue qui se trouve à ma droite, qui lui aussi est un prof d'histoire géo, attention, parce que l'instrumentalisation de l'histoire, bien sûr c'est Robert Ménard avec ses fantaisies sur la guerre d'Algérie, qui au passage, et je tiens à le dire, usurpe la mémoire d'un grand soldat, le commandant Hélier Denoy de Saint-Marc. Je sais bien que ce n'est pas politiquement correct, peut-être pour certains, mais aussi on peut parler de grands soldats qui avaient le sens de l'honneur et qui d'ailleurs, il faut bien le rappeler, n'étaient pas membres de l'OAS, même si effectivement les fans de Robert Ménard ont voulu prétendre le contraire. Ce n'est absolument pas le cas. Il y a effectivement les fantaisies de Robert Ménard, mais il y a aussi des gens beaucoup plus insidieux, beaucoup plus dangereux sur l'histoire et qui ne sont pas simplement à Béziers. Je pense à cet escroc qui se répand sur tous les plateaux de télévision, qui s'appelle Dimitri Casali et qui veut nous ressortir une histoire instrumentalisée avec effectivement Charles Martel, nos ancêtres les Gaulois, Clovis, les Mérovingiens et autres salades. Et ça, effectivement, sur le bulletin municipal de Béziers, des fois, on a droit à ce genre de fantaisie. Je remarquerai quand même que depuis que nous avons organisé en août dernier, nous n'étions pas très nombreux, devant la mairie de Béziers, le forum des Clionautes sur l'enseignement de l'histoire, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'était au mois d'août, c'était juste avant la rentrée des classes. J'avais dit à Midi Libre, et Midi Libre avait titré sur ce thème, sur Charles Martel, Robert Ménard mériterait zéro. Vous apprécierez quand même un prof qui corrige des copies avant même la rentrée des classes, ce qui est quand même pas mal. Mais en tout cas, visiblement, il y en a qui ont apprécié, beaucoup moins Robert Ménard. Eh bien, vous remarquerez que depuis que nous avons fait ce forum, eh bien, il n'y a plus rien comme thématique historique sur l'histoire. Donc, finalement, je me dirais, à la limite, on ne sert à rien. Si, on sert à quelque chose. Parce que ce combat, croyez-moi, il n'est pas terminé et on essaie de le mener à partir de Béziers. Eh bien oui, Béziers, c'est la capitale des Clionautes, peut-être, mais c'est aussi la capitale des profs d'histoire géo qui n'ont pas envie que l'enseignement de l'histoire soit instrumentalisé. Eh bien, finalement, c'est plutôt une bonne chose. Merci. Merci.
Sébastien Ribert-Pré, vous aussi donc, on le sait maintenant, vous êtes enseignant au collège Kraft à La Devèze, au quartier La Devèze. Vous êtes membre du collectif CAID, c'est ça, et vous préparez la deuxième fête des prénoms avec vos élèves. Racontez-nous la raison de cette fête.
La raison de cette fête, c'est au début le fait d'habiter et travailler sur Béziers. Travailler dans un quartier de Béziers, le quartier de La Devèze, qui, depuis l'élection de M. Ménard à la mairie de Béziers, était une ville et un quartier qui nous semblait stigmatisé par des campagnes néfastes telles que celle avec l'arme sur les campagnes d'affichage en disant désormais la police a un nouvel ami. Il y avait eu aussi sur le quartier de La Devèze une aire de jeu qui avait été dégradée et que la mairie n'avait pas voulu reconstruire et réhabiliter pour les enfants du quartier. Il y avait eu tu viens de le rappeler, la rebaptisation de la rue du 19 mars 62 en rue du commandant Élie Denoy de Saint-Marc, etc. Donc on avait le sentiment à la fois qu'il y avait un quartier stigmatisé, une population stigmatisée, et la goutte d'eau qui a fait un peu déborder le vase, c'est quand M. Ménard a fait sa sortie sur les prénoms en disant grosso modo un prénom fait une religion. Et donc du coup, ça, pour nous, ça a été l'élément déclencheur dans le collège d'un courrier, d'une lettre ouverte à l'initiative d'un collègue CPE de l'établissement auquel on l'a rejoint. Et on s'est dit de cette mobilisation, on aimerait bien en faire quelque chose, de réagir à ça, mais réagir sur le temps long et de construire une réaction plutôt en positif et en disant bah, effectivement, vous voulez stigmatiser les prénoms, monsieur le maire, et bien nous, les prénoms, on ne va pas les stigmatiser, on va les fêter, on va les célébrer dans leur diversité, dans ce qui nous raconte des histoires de chacun, dans ce qui nous raconte des histoires de la ville de Béziers. Et donc c'est comme ça qu'est née l'an dernier la fête des prénoms, qui ne concerne pas que le collège Kraft, qui rassemble aussi des enseignants qui sont mobilisés sur d'autres écoles de la ville, ou de simples, enfin simples, le mot est un peu maladroit, mais citoyens aussi qui nous rejoignent pour nous aider à réaliser ça. Voilà.
Et ça marche ?
Ben ouais, je pense que ça marche. L'an dernier, pour la première édition, avec sans moyen aucun, quoi, mis à part le fait que le département avait accepté qu'on puisse faire ça dans le collège, parce que se pose la question aussi, quand on fait quelque chose à Béziers, de où est-ce qu'on peut le faire, dans quel lieu. Uh-huh. Voilà, donc le conseil départemental nous avait autorisé à faire cette manifestation dans le collège. Et oui, il y avait Alors là, c'est toujours pareil, quoi. C'est 300, 400 parents qui sont venus, élèves, une après-midi de fête au collège qui a rassemblé différentes personnes. Et nous, c'est ce qui nous paraissait important. C'est-à-dire là où on a un maire qui stigmatise, qui veut diviser la population, nous, il nous semblait intéressant de créer un événement qui rassemble et qui nous rassemble tous, qui que nous soyons, d'où nous venions. Et voilà.
Bruno Modica veut ajouter quelque chose.
Oui, non. Ce que je voulais dire, c'est que dans ce genre de circonstances, là aussi, il faut bien se rendre compte, quand on est effectivement enseignant, que ce n'est pas anodin. Les campagnes d'affiches municipales, avec effectivement cette utilisation là aussi de certains codes graphiques qui rappellent des années noires, notamment cette arrivée de gens inquiétants se détachant en silhouette face à une cathédrale sur un ciel plombé, les Biterrois voient de quoi il s'agit, ça fait quand même appel à certains codes avec évidemment ce message alarmiste, ils arrivent, ils viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes. Eh bien ça aussi c'est notre boulot. À chaque fois, il faut décoder. Il ne faut pas accepter. Jamais. Jamais, parce que c'est notre boulot de prof d'enseignement moral et civique. Nous faisons ce travail-là au quotidien. Nous décryptons, nous décodons, nous donnons le monde à comprendre et à analyser. Il ne faut jamais lâcher. Moi, ce que je disais à mes collègues qui me disaient, tu sais Bruno, Robert Ménard, il connaît les médias, etc. Je leur disais, en reprenant peut-être la citation, excusez-moi, d'un pape à propos de la peur de l'Union soviétique, c'était un pape polonais, il disait à ses compatriotes à Varsovie, n'ayez plus peur. Et ben moi je dis, ben voilà, Robert Ménard est un tigre en papier, pour reprendre une phraséologie maoïste, je vous dis, n'ayez plus peur, il faut lui répondre sur tous les terrains et jamais lâcher. Ça, nous le faisons dans notre champ de compétences, indépendamment de toute appartenance partisane. Je n'en ai plus aucune depuis que je préside une association professionnelle, parce que justement, je veux que le message soit clair, je veux que l'on se retrouve autour des valeurs, du savoir, de la connaissance, de la curiosité, de la rencontre avec les autres, et finalement, quelque part, autour des valeurs de la République. Merci.
Merci. Bruno Modica. Sarah, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, alors je voudrais rappeler qu'aussi, quand il y a eu le changement de rue à l'appel du mouvement de la paix et de l'appel des 100 de France-Algérie et de beaucoup d'autres associations et de partis politiques, il a été organisé un grand rassemblement en même temps que l'espèce de commémoration qu'il a organisée. Il y avait plein de CRS, on nous a séparés, on n'a pas voulu qu'on soit entendu, et lui il a mis une sono extrêmement puissante avec des chants coloniaux qui ont résonné en plein Béziers en 2004, et pour couvrir justement nos protestations. Ça a été une manifestation correcte, régionale, qui a réuni beaucoup de monde. Et donc j'informe aussi donc que parce que nous contestons le nouveau nom de cette rue, et parce que ce monsieur Élie de Saint-Marc est quand même un putschiste, donc bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et nous vous invitons le vendredi 24 mars à la CIMADE à une projection du film Les Balles du 14 juillet 1953. Il y aura un débat et nous continuons à contester le changement de rue jusqu'à ce qu'on revienne à la rue du 19 mars 62.
Merci Sarah. Je vous signale qu'il y a ce que vient d'évoquer Sarah, c'est un reportage que vous pouvez trouver sur le site là-bas si j'y suis, on y était, et tout ce que dit Sarah, on l'a raconté et on l'a aussi photographié. Je vous parlerai plus tard de la fameuse photo que nous avons faite ce jour-là, et on va continuer, si vous voulez bien, avec Rémi Serre, que vous voyez là, qui n'est pas biterrois. On se connaît depuis 13 ans avec Rémi. Il m'avait adressé, lui et trois de ses copains, ils étaient exactement quatre à l'époque, un courrier en disant « Nous sommes des anciens appelés en Algérie et nous sommes à l'âge où nous allons percevoir notre pension ». Et nous ne voulons pas percevoir cette pension, nous voulons mettre cet argent de côté, ça doit être 500 ou 600 euros par an, afin de faire des opérations, de rapprochement, de solidarité avec l'Algérie. Et c'est tellement rare, ça m'a semblé tellement rare, tellement formidable, j'étais venu les voir. On a fait une émission là-dessus à l'époque qui a eu un retentissement formidable. Et leur association existe toujours. Ils ont tenu le coup. Et il y a un film qui a été fait sur eux. Ils vont retourner bientôt, Rémi et les autres vont retourner bientôt en Algérie. Dans un endroit comme Béziers, où cette mémoire, je le disais tout à l'heure, est toujours à vif. Elle est toujours en train de fermenter. Elle est toujours manipulée, comme disait tout à l'heure Bruno Modica. Je trouve que c'est quand même pas mal, même s'ils sont peu. Hein, c'est pas parce qu'on est nombreux qu'on a raison. Hein. Même s'ils sont peu, mais ils sont tenaces et ils font partie de ces petites choses qui sauvent véritablement l'honneur d'un pays et l'honneur aussi d'une génération. Vous le savez, il y a 2 millions de Français de ma génération et de la génération de Rémi qui sont allés en Algérie et qui ont fait là-bas des choses. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Certains d'autres. Et c'est une mémoire moche. C'est une mémoire qui fermente profondément à l'intérieur de notre pays. Vous avez 2 millions de familles en France où il y a un grand-père qui porte cette mémoire moche. Ils n'ont pas parlé, la plupart n'ont pas parlé. Il a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour qu'on prenne conscience, pour qu'on prenne la mesure de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont vu, de ce dont ils ont été témoins et parfois aussi les acteurs. Mais la noblesse de ces gens-là, des gens comme Rémi, ça a été à un moment de dire non. Hein, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un moment pour ça, et c'est ce moment-là. Rémi, j'ai été trop long, j'ai trop parlé. Est-ce que tu veux présenter cette histoire à ta façon, qui sera meilleure que la mienne ?
Bon, je vais essayer, mais moi je suis un paysan retraité. Je fais figure de pauvre parmi tous ces gens de la tribune. Alors, pour comprendre un peu notre association, il faut comprendre un peu la guerre d'Algérie. En 3 mots, je vais vous dire, en 58, nous avions 20 ans. Et c'était en même temps une guerre qui durait à l'Algérie depuis 54, donc c'était en pleine guerre. Et nous voilà partis là-bas, paysans des montagnes environnaises où il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision, un peu de radio, quelques journaux. On ne savait pas très bien où on allait ni qu'est-ce qu'on allait faire. Donc nous voilà partis là-bas, on nous fait pendant 4 mois, on nous apprend à obéir surtout. Chercher à comprendre, c'était commencer à désobéir. Et on nous apprend à tuer et à ne pas être tué. C'est ça, faire la guerre. Dans le civil, quand quelqu'un tue, on le met en prison. À l'armée, quand quelqu'un tue, on le décore. Et au bout de 4 mois de ces classes très disciplinaires où pendant 2 fois, un scout parmi nous qui avait un peu plus de gueule, je dirais, a essayé de faire une mini-révolution, mais très vite, ça nous a passé. Donc au bout de 4 mois, nous voilà fin pris pour aller tuer ces fellagas, ces rebelles qui étaient dans les montagnes, qu'on appelait des terroristes et qui mettaient, soi-disant, le désordre dans le pays et qu'il fallait ramener à la raison ou en tout cas essayer. Mais les montagnes kabyles sont très escarpées et les kabyles marchent vite. Surtout quand on leur tire dessus, il n'y a rien de mieux pour faire marcher quelqu'un très vite. Très vite, on a vu qu'on était tombé dans un piège. Même les gens comme nous qui n'avions pas une grande culture, on a très vite compris qu'on était là pour défendre des grands colons. Quelques colons, je ne dirais pas tous les colons parce que ce n'est pas vrai. Quelques colons très riches et quelques multinationales qui ne voulaient pas perdre leurs privilèges. Mais après avoir essayé plusieurs fois les représentants de ce peuple indigène, parce que c'était des indigènes, et les indigènes c'était juste le corps au-dessus de l'esclavage. Et après avoir essayé de trouver un peu plus d'équilibre dans les indigènes et les Européens un peu moins d'injustice. Voyant qu'ils n'arrivaient pas, ils avaient pris les armes. Voilà, c'est une brève présentation de cette guerre qui a duré 8 ans, qui a fait 30 000 morts de notre côté. Pour ma part, j'ai failli mourir aussi. Et qui a fait quand même 500 000 à 1 million de morts, c'est très discuté, du côté algérien. Et ils étaient 8 millions. Donc ça fait une grosse proportion. C'est comme si aujourd'hui en France, on tuait 6 600 000 personnes. On n'a pas été la mine, l'ancien combattant que nous avons rencontré. Il a dit, vous n'avez pas fait de cadeau. Pas un chat n'avait la vie sauve. À la libération, nous revenions dans le village après 28 mois. Et nous étions remplacés, puisqu'il y avait une permanence de 400 000 soldats en Algérie. Et tout à l'heure, Daniel disait qu'il y avait 2 millions à 2,5 millions de soldats français qui étaient appelés, c'est-à-dire obligés, d'aller là-bas faire la guerre. Et nous revenions dans le village, personne ne demandait rien, parce qu'on n'était pas très fiers de cette guerre en France. En 1945, nous étions les occupés, mais en Algérie, c'était nous les occupants. Et quoique dans nos campagnes, ils ne sont pas très au courant de ce qui se passait là-bas, on pensait quand même que... Qu'est-ce qu'on allait foutre là-bas, quoi. Et voilà, et donc, si personne ne te demande rien, ben, tu n'en parles pas. Et la vie te prend, et puis ça court, et puis tu arrives à 65 ans. Et à 65 ans, tu as droit, si tu la demandes, à une retraite de combattant, qui était à l'époque de 430 euros par an, et qui maintenant est montée à 630 euros par an. Et cette retraite, elle était entachée de sang, de mort, de misère, de torture, que pour moi et pour les quatre fondateurs, on ne pouvait pas prendre cet argent pour nous. Donc on a essayé de faire, on a créé une association qui s'appelle la 4ACG, appelée, anciens appelés d'Algérie et leurs amis contre la guerre. Et nous avons fait une conférence de presse aidée par le CODE, le comité des objecteurs tarnés, parce que nous, à l'époque, on ne savait pas ce que c'était, une conférence de presse. On avait invité Daniel Mermet, mais il n'a pas daigné venir.
T'es gonflé.
Et alors, on a fait ce truc de conférence de presse. Il y avait une salle de 200 personnes, quand même. Et dans la salle, il y avait des pieds noirs, il y avait des gens de l'armée. Et on avait du mal à se défendre. Enfin, on est arrivés à tous les quatre, arrivés à la fin, sans trop de mal. Et voilà qu'après, quelques jours après, ce monsieur Daniel Mermet, j'avais un portable à l'époque, il me téléphone, il me dit, ici Daniel Mermet, je voudrais te parler ou vous parler, je pense que c'est bonne soirée. J'ai dit, qui c'est ce con qui se prend pour Daniel Mermet, oh. C'est une farce, c'est moi, petit paysan de la montagne, je dis, qu'est-ce qui s'adresse à moi? Seulement il insiste tellement que je me suis dit, c'est peut-être sérieux. Et voilà, et alors, après plusieurs échanges, il est venu à la ferme et il a fait une émission de la bassine je suis avec les quatre fondateurs. Et jusque-là, on n'était qu'une quinzaine d'adhérents suite à notre conférence de presse et suite à aux divers articles qu'il y avait eu dans les journaux. Et puis, tout d'un coup, grâce à lui, on est passé à 60. C'est pas mal, hein, ça valait le coup de le recevoir. Et voilà, alors petit à petit, eh bien, 60, ces gens-là, ils ont écrit dans leurs journaux régionaux, et on est arrivé à 130 adhérents qui versent la totalité de la retraite. Maintenant, ça diminue un peu, parce qu'à nos âges, il y en a qui...
Ça déboise.
Il y en a qui décoiffent. Hein. La moyenne d'âge de l'association, c'est 80 ans. Ça diminue encore une centaine, et puis on a vu qu'on diminuait, donc on a ouvert la porte aux amis. Et n'importe qui d'entre vous, je vais faire un peu de réclame quand même, peut devenir ami. C'est-à-dire qu'il verse 30 euros ou plus, parce que si vous êtes riche, autant donner plus.
Bah oui, tout à fait.
Et vous devenez ami. Vous devenez ami, et donc après, vous pouvez venir au voyage en Algérie, par exemple, et puis vous recevez les diverses informations de ce que nous faisons. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous avions dit au départ qu'on se fixait de libérer la parole. C'est-à-dire qu'il y avait plein de gens qui n'avaient jamais rien dit. Et à l'Assemblée générale, tous les nouveaux, on leur dit s'ils veulent de parler de ce qu'ils ont vécu. Donc ils parlent de ce qu'ils ont vécu. Certains témoignages sont très émouvants. Et souvent, avant la fin du récit, les gens se mettent à pleurer. Et des gens de 80 ans qui pleurent, ça fait drôle. Hein. Et le second truc, on avait dit on voudrait serrer la main d'un Fellaga. Fellaga, ça veut dire bandit. Mais c'était les gens qui se battaient contre nous, tout simplement. Et on ne savait pas trop comment s'y prendre, parce qu'ils sont là-bas, en Algérie, nous, on est ici, tout ça. Et finalement, depuis 14 ans, on a serré la main de nombreux Fellaga. Pour ma part, je suis allé 8 fois en Algérie. Nous organisons des voyages avec les amis ou les adhérents et leurs familles qui veulent venir là-bas. Nous rencontrons les associations qu'avec notre argent, parce que nous sommes riches, nous avons 70 à 80 000 euros à restituer tous les ans. Nous le donnons en priorité à l'Algérie et un peu à la Palestine, parce que certains d'entre nous sont sensibles à la Palestine. Et donc, nous considérons que la Palestine, c'est aussi une guerre coloniale dont nous donnons un peu à ces deux peuples. Nous aidons certaines associations de jeunes, surtout des jeunes, filles ou garçons d'ailleurs, qui veulent revenir à la terre, notamment en Kabylie. Et je vois une des filles là que nous avons visitées qui prend sa ruche au village sur le dos et qui la monte dans une terrasse et qui nous dit c'est grâce à vous si aujourd'hui j'ai 4 ou 5 ruches, parce que sinon du travail en Algérie il y en a encore moins qu'ici et j'avais vraiment pas de quoi gagner ma vie. Et pour ma part, je suis allé en tant que paysan 5 fois au village de Tazla. Le village de Tazla, c'est un village au fin fond de la Kabylie. Quand on arrive là, la route s'arrête. Il est très symbolique parce que pendant la guerre, il était en zone interdite. Zone interdite, ça veut dire qu'on faisait partir tous les gens de la montagne, on les poussait dans la plaine, et là, c'était zone interdite, tout ce qu'il y avait là-dedans, on pouvait tirer dessus. Pourquoi on faisait ça? Pour surtout affamer les Fellaga, puisque ils n'avaient rien à manger, ils ne pouvaient pas aller s'approvisionner au village. Dans ce village, nous avons participé, notre association, à remettre l'eau, à replanter des arbres et des légumes de l'époque. Nous avons fait un château d'eau aussi pour l'adduction d'eau des maisons. Nous avons acheté un car pour amener les gosses à l'école. Et aujourd'hui, il y a 17 familles, il y avait 4 familles, il y a 17 familles qui sont revenues dans ce village. Après, qu'est-ce qu'on fait encore? Eh bien, voilà, on fait des voyages, donc on a fait 6 ou 7 voyages avec tous ceux et celles qui veulent venir, des adhérents ou des amis. Nous rencontrons les associations, nous rencontrons les municipalités. Nous avons des rencontres très émouvantes parce que des fois, on tombe sur des gens que notre armée a tué les parents ou leurs ancêtres. Des fois, beaucoup de gens sont très émus, mais partout, on nous dit bienvenue, bienvenue. Moi, je ne comprends pas ces pauvres Arabes. On les a maltraités pendant 130 ans, et encore, ils nous disaient bienvenue, bienvenue. Est-ce que nous serions capables d'en faire autant? Nous avons aussi visité le musée de la Soumane. C'est là où pendant la guerre, en 1956, se sont pris des décisions de comment faire la guerre. Et il y avait là tous les généraux, tous les commandants qui, pendant 10 jours, se sont réunis pour voir la stratégie qu'ils pouvaient mener. Mais en même temps, il y a une salle où il y a des photos des leurs qui sont tombés au combat. Et là, c'est très émouvant parce qu'ils sont très jeunes, beaucoup plus jeunes que nous à l'époque. Et les murs sont tapissés de photos. Je voulais dire que, pour prendre un seul exemple, nous avons intervenu au lycée Montpellier, au lycée Monet. Il y avait Moujahidine, Joudi Atoumi, qui était venu. Et à la même table, il y avait ce qu'on disait, appelé un Fellaga, et puis deux anciens appelés. Presque, on n'aurait pas eu besoin de parler. Mais ce monsieur Joudi a eu une phrase que je trouve très, très émouvante. Il leur a dit, parmi vous, il y a des futurs responsables politiques. Et vous aurez à prendre des décisions importantes. Et ce Joudi qui avait fait 7 ans dans le maquis, sans se faire tuer, chose rare, elle leur dit, sachez qu'on ne résout jamais le problème par la guerre. Oui, mais j'arrête, parce qu'après, on m'a dit qu'il fallait pas parler trop longtemps, donc j'arrête. Mais une dernière phrase. Alors, nous, les appelés du contingent, et voilà, je l'ai déjà dit, mais on a un certain âge. Nous sommes des témoins. Et des témoins, c'est irremplaçable. Après nous, il y aura des historiens. Il y aura des gens qui raconteront la guerre, mais ne pourront pas la raconter comme nous qui l'avons vécue. Qui avons vu surtout les tortures qui nous ont marquées à vie. Parce que tout prisonnier était torturé systématiquement. Qu'on ne raconte pas des histoires, tout prisonnier était systématiquement torturé. Et par exemple, quand même Massu, qui a dit ce sont les morts, on aurait pu faire autrement, on a dû faire autrement. Et de Bollardière, qui n'a pas supporté la torture, lui, il est parti. Donc vraiment, la torture, c'est ce qui nous les a appelés, parmi tout ce qui, c'est ce qui nous a le plus marqué. Et puis nous combattons contre ce racisme qu'on a déjà parlé, parce que je ne vois pas, parce qu'on a la peau blanche. On est si méprisant pour ceux qui ont la peau noire, et, ou ceux que l'on croit inférieurs. Parce que pourquoi on tape sur quelqu'un? Parce qu'on croit que c'est notre inférieur. Nous, on nous avait, pendant les classes, inculqué que les Arabes, les indigènes, c'était des êtres inférieurs. Parce que sinon, on ne peut pas se comporter. Si on ne peut pas se comporter comme nous sommes comportés. Si on pense que c'est des êtres égaux, on ne peut pas faire tout ce qu'on a fait. Voilà.
Merci. Prémissaire, vous trouverez facilement les coordonnées des 4 A, C, G, au moins sur le site de la Bastille ici. Merci, Rémi. Merci. Voilà, on va continuer avec Camille Simret, avec les Ogres. En route, Camille.
Donc, chanson écrite un peu avant le printemps 2014. Béziers, ma belle, ni ta révolte ni ton soleil ne t'ont quitté. Et sur la boue, il y a l'espoir, et sous la boue, il y a la joie. Belle du sud, brûlée à vif, j'effleure ces grands murs noirs marqués de griffes. D'épreuve pour un présent trop maladif, elle pleure. Comment rayer le mauvais sort qui grise, assassiné par des plus forts, église. Elle gise encore dans cette mort traîtrise. Sur la piste de nos anciens, je cherche à réinventer un destin sans brèche, sans peur, sans armes et sans les seins. Illumina ordine, nega ta grido,
ribolle, donne ton soleil, tant parce qu'il t'a les bottes et juste la fango ma pulita, sa vista un joy, si os pas passido, tu ne strambol, bel mi lobido, pesic de sal, que se marido, ame la zaigo, estracido, en fin de luz, que tan protido.
Camille Simret, merci, bravo. On continue, deuxième.